Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
À tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM et c'est Zoom Écologie. Et bien aujourd'hui une émission en deux parties avec d'abord une partie concernant l'exploitation pétrolière en Île-de-France, puisque vous l'apprendrez peut-être, mais il y a une exploitation pétrolière en Île-de-France. Et puis ensuite, en deuxième partie, nous recevrons Manon qui est chargée de campagne, c'est ça? C'est ça le titre?
Aux Amis de la Terre France.
Ouais, très bien. Et donc pour nous parler de... Donc c'est chargée de campagne agriculture, donc pour nous parler notamment des engrais. Et on parlera un peu de c'est quoi un engrais, comment il est produit, et notamment en France.
Exactement.
Très bien. Et bien donc, normalement, on a en ligne l'administrateur de France Nature Environnement de Seine-et-Marne. Est-ce que tu es au téléphone avec nous?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, on est content de te recevoir avec... Donc, tu fais partie de France Nature Environnement Seine-et-Marne, qui est, avec d'autres associations, engagée contre un projet d'exploitation pétrolière en Seine-et-Marne, puisque tout le monde ne le sait pas forcément, mais il y a de l'exploitation pétrolière en Seine-et-Marne.
Voilà. Et donc, en fait, historiquement, depuis les années 60, quand on se promène dans ce très beau paysage, on voit des petits bras de levier qui pompent le fioul jusqu'à 1000-1500 mètres de profondeur, hein, et qui participent à une très faible production. Donc, cette production, en fait, avant, elle était dirigée vers le site de Grandpuy, qui a fermé il y a 2 ans. Mais il y avait toute une partie en fait du fioul qui était raffiné par Grandpuy, par la raffinerie Grandpuy, et qui venait de Seine-et-Marne directement. Quoi. Voilà, donc c'est dans le paysage de façon historique.
Ouais.
Et ce qui a relancé en fait les choses, c'est que on a une petite société, Bridgejoy Energy, qui a un puits à Nonville, dans le sud du 77, en plein milieu du bocage Gâtinais. Un très joli coin par ailleurs, et cette société a demandé à avoir de nouveaux puits. Alors en fait, le préfet de Seine-et-Marne a signé l'accord en début d'année, au mois de le 30 janvier 2024.
Ouais. Donc,
il a pris un arrêté autorisant l'ouverture de travaux sur la concession, donc le forage de 2 nouveaux puits d'extraction de pétrole.
Très bien.
Donc ça a relancé en fait la colère à plein de niveaux. Donc c'est ça que j'avais essayé de vous expliquer.
Ouais, c'est ça. Alors quand tu nous dis qu'on a une exploitation qui est historique et que c'est effectivement, tu dis en termes de production et de consommation, en fait pas grand chose par rapport à l'immensité des imports français et de la production mondiale. Mais du coup, ça correspond donc à quoi en termes de nombre de puits et en termes de pourcentage de production, enfin, et qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là du coup?
Alors, ici, c'est vraiment un truc très marginal par rapport à la consommation française. On est sur du 0,05% de la consommation française. Et c'est surtout en fait des enjeux financiers ou de principe. On a l'impression qu'on ne connaît pas tous les arrière-pensées ou les enjeux directs. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait jusqu'à maintenant 2-3 camions par jour de fioul qui étaient produits sur ce site de Donville. Et la demande, en fait, c'était de pouvoir passer à une production supérieure avec les 2 nouveaux puits qui demandent, donc de 4 ou 5 fuel, mais 4 ou 5 ouais. camions par jour.
Ouais.
Mais ça reste toujours extrêmement marginal hein, par rapport évidemment
ouais.
à la consommation.
Ouais. Mais du coup, on pourrait presque un peu se demander, étant donné que ce n'est pas grand-chose, un peu le risque qui est pris de signer ces permis d'exploitation. Enfin, en fait, est-ce que pour celui qui a la concession, ça rapporte, j'imagine. Enfin, c'est pas, même si ce n'est pas grand-chose par rapport à la production française, pour celui qui l'a, c'est du cash direct, quoi.
Non, parce qu'en fait, il faut qu'il creuse à 1500 mètres, et après, il l'emmène en camion jusqu'au Havre, puisque Grandpuits a fermé. Donc, l'intérêt économique, tout le monde s'interroge hein, sur la construction du truc. Et voilà. Donc, par contre, nous, ce qu'on voit bien, c'est les enjeux directs par rapport à cette très faible production et ce gain financier minime. Ouais. On voit bien, par contre, les effets directs. Alors, on voit, en fait, à trois niveaux. Hein.
Première
chose, c'est l'approvisionnement en eau de Paris. Donc, historiquement, hein, depuis le début du XXe siècle, Paris a structuré tout un réseau d'aqueducs qui amène de l'eau depuis un certain nombre de sources de tout le bassin parisien et Normandie. Et donc, notamment, juste à côté de Nonville, à 4 km, à Villebéon, on a une source d'eau très pure qui est captée par donc c'est un point de captage d'eau de Paris et qui est emmenée par aqueduc à travers la forêt de Fontainebleau jusqu'à Paris et qui approvisionne 180 000 habitants de Paris. Hein, donc l'enjeu pour Eau de Paris, c'est évidemment de préserver cette source d'approvisionnement.
Parce qu'attends, ce qu'il faut dire, c'est que ce forage, en fait, il est juste au sud de la forêt de Fontainebleau, à côté de Nemours, pour situer un peu dans l'Île-de-France.
50 km de la forêt de Fontainebleau, ouais. en pleine, à la marge, en fait, de la réserve de biosphère mondiale hein, que représente la forêt de Fontainebleau.
Ouais, ouais.
Et,
alors, pourquoi il y aurait un impact sur l'eau? Ce serait quoi la raison de cet impact sur l'eau?
C'est d'abord le forage lui-même, puisque pour avoir un puits, il faut traverser la nappe phréatique, donc c'est elle qui fournit l'eau pour les Parisiens. Et elle traverse la première nappe phréatique, c'est une zone calcaire, en fait, karstique, avec donc une présence de l'eau au sein dans les failles de la zone calcaire, de l'eau qui se répartit en fait très vite au sein de cette nappe calcaire, de cette couche calcaire jusqu'à la nappe. Et s'il y avait une pollution pendant le moment du forage, une pollution de cette nappe phréatique, Eau de Paris serait obligé de fermer en quelques minutes en fait l'approvisionnement de l'eau. Ouais. Vers Paris. Quoi.
Ouais. Parce qu'il faut imaginer fois ce forage est là, c'est qu'en fait, ça va être une sorte de grand tuyau de forage qui va passer à travers cette nappe phréatique. Donc, s'il y a une fuite,
voilà,
ça fuit dedans.
À 1500 mètres.
Ouais. Okay.
Alors que la nappe, elle est à moins 80 mètres, moins 40, voire même affleurante. Et ensuite, il y a un deuxième risque pendant la durée de l'exploitation, puisque il y a déjà eu deux incidents de ce type-là depuis 2-3 ans. Il y a eu, par exemple, une vanne qui avait éclaté au niveau de la sortie du puits. Et donc, il y a eu une nappe de pétrole qui s'est répandue sur le site d'exploitation. Mais il y a aussi un autre camion qui s'était à moitié renversé avec un peu plus loin, avec un épandage de pétrole, en fait, dans une rue.
Ouais.
Et ce pétrole, donc, il glisse dans la nappe phréatique, mais il va aussi rejoindre le Luna, la petite rivière très sympa qui est juste à côté, qui elle-même se jette dans le Loing, qui se jette dans la Seine, etc. Mmh. Donc, vous voyez, en fait, qui longe, en fait, la forêt de Fontainebleau. Donc, on voit que l'exploitation, en fait, porte des risques aussi pendant des années. Et il faut bien se dire aussi que la pollution de la nappe phréatique, elle ne s'en ira pas en 5 minutes.
C'est-à-dire
une fois qu'on aura une pollution, elle restera pour des décennies. Hein,
Parce que ce sera dans la porosité de la roche et on aura des traces d'hydrocarbures dans la nappe phréatique. Quoi.
Voilà.
Ouais. Okay. Donc ça, on comprend que c'est un enjeu qui est quand même assez important du point de vue de la santé publique et sur lesquels à la fois les industriels prennent toujours des engagements, mais on sait qu'il y a assez régulièrement, du point de vue mondial, des catastrophes, et qu'il n'y a pas de raison que ceci n'ait pas spécialement lieu dans ces forages en France. Il n'y aurait pas de magie ici, en fait. Quoi. On n'est jamais à l'abri de l'accident, c'est ça, en fait.
surtout qu'il y en a eu déjà depuis 2 ans, et ouais. à chaque fois, c'est l'entreprise Bridgejoy a mis un temps énorme à réagir. La première fois, ils ont mis 24 heures pour venir, la deuxième fois, quelques heures seulement. Mais Haute-Paris, de toute façon, a une obligation de réaction dans, les heures qui suivent,
bien sûr,
l'eau part directement sur Paris.
Ouais. Ok. Et donc, tu disais après, donc, deuxième niveau un peu d'enjeu pour vous, c'est celui de l'endroit où est le forage pour vous.
Qui sont impactés par, qui subissent cette exploitation. D'abord parce que les camions traversent le village, ils peuvent toujours se renverser. Et puis aussi, il y a eu des odeurs de soufre qui étaient dégagées par l'exploitation. Bon, même si aujourd'hui, le système mis en place est plus sécurisé, mais il y a eu beaucoup de désagréments depuis des années par l'exploitation directe du pétrole.
Parce que là, on est quand même sur un système de lumière, c'est pas non plus des grosses torchères comme on voit dans les images de coupe à la télé.
Oui. Ça fait, 50 mètres sur 50 mètres.
Alors. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une petite plateforme, quoi. Ouais,
ouais. Oui, c'est une toute petite plateforme.
Ouais, okay.
Au milieu des champs, avec les chevaux autour, puisqu'il y a un haras juste au-dessus.
Ouais, ouais. Ok. Et donc, évidemment, il y a une inquiétude des riverains sur, sur l'impact que ça pourrait avoir ces forages sur le voisinage immédiat, quoi.
Voilà, et sur le village et sur les habitants, quoi.
Ouais. Et enfin, donc, tu disais. Ouais.
Sur la troisième niveau. Donc nous, en tant qu'association environnementale, on est évidemment beaucoup engagé sur ce niveau-là. C'est l'enjeu écologique au niveau de la planète. On voit quand même l'effet des dérèglements climatiques dans un certain nombre de pays, et puis dans Seine-et-Marne d'ailleurs elle-même, avec les inondations qu'il y a eu dans le nord du département. Mmh. Et la décision d'avoir de nouveaux forages de pétrole va évidemment dans le sens absolument contraire de tout ce qu'il faudrait réfléchir et décider au niveau de la planète. Quoi. Les objectifs de l'accord de Paris,
c'est ça.
La limitation du réchauffement à 1,5 degré par exemple, ne reposait sur le fait de fermer les infrastructures fossiles existantes.
Ouais. C'est-à-dire que là, si on exploitait...
Leur durée de vie,
ouais. Si
là,
on exploitait...
Au contraire, on va relancer des nouveaux puits de pétrole.
Parce qu'il faut se comprendre, là, pour quand on parle aux informations qu'il y a un engagement de 1,5 degré, bon, déjà, ce n'est pas un engagement, enfin, c'est déjà 1,5 degré, c'est déjà beaucoup. Et ensuite, c'est de se dire que ce que ça signifie, du point de vue notamment de l'exploitation pétrolière, ça veut dire non pas... aller jusqu'à l'exploitation des puits actuels, puisque ceci représenterait plus de 1,5. En fait, il faudrait se dire on n'exploite pas jusqu'au bout ce qui est déjà actuellement exploité, sinon on va à plus de 1,5 degré. C'est ça que ça signifie. Hein.
Voilà. Et d'ailleurs, Macron lui-même avait plaidé en faveur d'une sortie des énergies fossiles. Oui. Hein, et il disait, nous devons tourner la page d'ici 2040 du pétrole. Oui. Voilà, donc on est quand même sur un scénario, un paradoxe complet, c'est que en même temps, on y a un affichage du gouvernement, et de l'autre côté, le gouvernement va donner son accord pour le forage de ces deux puits.
Oui. Alors que donc ces forages, évidemment, ce serait une responsabilité de la France en tant que pays industrialisé, de dire on n'exploite pas ce pétrole, puisque précisément, il reviendrait à l'engagement pris, et donc... On refuse. C'est ça la politique qu'il faudrait avoir, ce serait de dire on n'exploite pas ce pétrole. Et assumer ça.
Voilà,
quoi.
Il faudrait mettre en adéquation les décisions gouvernementales par rapport à l'affichage des prises de position du gouvernement sur ces questions.
Ouais. Alors du coup, est-ce que le fait que, évidemment, ceci contrevient aux engagements pris de façon internationale par la France notamment, fait que la France se met, pas simplement du point de vue du moral et politique en contravention, mais vraiment vis-à-vis de la loi internationale. Est-ce que y a la France, à ce moment-là, se met avec ce décret hors la loi du point de vue international?
Non, elle se met surtout en désaccord par rapport à la loi Hulot, en fait, qui avait dit qu'il fallait arrêter toutes les exploitations d'ici 2035-2040. Et donc, par rapport aux accords et l'engagement par rapport au niveau mondial, portait beaucoup plus sur la réduction des gaz à effet de serre et tout ça.
Mais pour l'instant, donc il n'y a pas...
La discussion ne porte pas sur ça. ça et porte plus sur la cohérence de la politique française
c'est
en
ça.
Interne.
Pour l'instant, il n'y a pas eu, par exemple, de condamnation auprès de l'Europe disant « vous n'avez pas le droit de faire ça puisque ça contrevient aux objectifs ». Pour l'instant, on n'en est pas là, c'est ça que tu dis. Quoi. On n'a pas,
voilà,
ce moyen.
Notre affaire à tous, par exemple, par rapport à ce dossier-là, porte beaucoup plus effectivement sur ces dimensions-là. Quoi.
Évidemment, oui.
Parce que, donc, pour continuer l'explication, donc, par rapport à ce forage, il y a eu deux choses. Il y a eu d'abord une mobilisation dans le coin. Il y a une pétition, par exemple, qui a déjà 35 000 signatures. Mais aussi, en fait, cette mobilisation prend la suite de plusieurs mobilisations qu'on avait eues depuis 4-5 ans. Alors, il y a 10 ans, il y avait un projet de gaz de schiste dans le coin. Mmh. Donc, il y avait une mobilisation très, très forte de la population. Bah. Parce qu'on connaît la destruction de la nature environnante par rapport à ces puits de gaz de schiste.
Ouais. Mais on peut revenir dessus, justement, deux secondes sur cette mobilisation. C'est que moi, j'avais trouvé ça assez intéressant quand cette mobilisation était apparue à la fin des années 2000, globalement, début des années 2010, que, en fait, plein de gens, et on pourrait presque dire à ce moment-là, au niveau du ministère, se rendaient compte qu'il y avait une exploitation pétrolière en France, et notamment en Seine-et-Marne, et que celle-ci avait, certains avaient l'ambition de lui faire prendre la forme, précisément, de l'exploitation du gaz de schiste, qui, pour le coup, est encore plus destructeur de l'environnement que l'exploitation, on va dire, à peu près conventionnelle telle qu'elle est actuellement. Et à ce moment-là, ça avait quand même beaucoup mobilisé et une certaine prise de conscience locale de la réalité de ce qu'est l'exploitation pétrolière et de sa possibilité, quoi.
Voilà. Alors, ça rebondit après, quand Bridgeoy a déposé un projet de construction de 10 puits et l'extension de sa concession pétrolière à 50 km². Pour l'instant, ils ont 5 km² autour de Nonville. Et donc, ils ont demandé l'autorisation de 50 km². Donc là, pareil, il y a une pétition, y compris internationale, puisque pour beaucoup, la forêt de Fontainebleau, c'est un vrai symbole au niveau mondial. Et on avait mené toute une bataille. On a gagné, en fait, sur les 10 puits, hein, puisque le projet s'est réduit. Par contre, on avait gagné on avait gagné au niveau national l'extension à 50 km², mais le Conseil d'État a cassé la décision, a renvoyé à la Cour de Poitiers, qui du coup a donné son accord pour l'extension à 50 km², ce qui a conduit en fait à un décret qui a obligé le gouvernement à prendre un décret en fait le 27 décembre 2023, qui accordait la concession, l'extension à 50 km². Quoi. Donc on est sur un truc de fou. Quoi. C'est, on a une concession pétrolière qui s'est élargie en France. Quoi. Et quand le 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a pris sa décision sur les deux puits, on a eu aussitôt les mêmes réseaux en fait, qui se sont mobilisés, le maire de Nonville, les mairies, tous les conseils départementaux, les communautés de communes, qui se sont tous mobilisés en fait contre cette décision du gouvernement et du préfet. Ouais.
Parce que peut-être qu'il faut comprendre aussi dans la dynamique d'une exploitation pétrolière, c'est que en fait les industriels pétroliers, quand ils ont une concession d'exploitation, en fait ils passent leur temps à faire des recherches autour pour agrandir au maximum et maximiser l'emprise qu'ils ont. Donc en fait, quand on ouvre deux puits de pétrole avec une concession de 50 km, il faut s'attendre à ce que tôt ou tard, il y ait un ensemble de paniers de recherche qui soient amés, qu'ils aient trouvé d'autres gisements et qui percent et ainsi de suite. Et qu'en fait, c'est pas parce que ces deux puits arriveraient à terme qu'en fait, ce serait la fin. C'est qu'en fait, on relance un cycle d'exploitation d'une certaine manière. Là.
Voilà. Alors, il n'y a pas de recherche en tant que telle, hein, puisqu'ils savent qu'il y a la couche, même s'ils ne savent pas exactement sa densité quand on se déplace de 10 km.
Ouais.
Mais par contre, les deux puits qui existent pour l'instant commencent petit à petit à avoir une rentabilité plus faible, hein, puisque le principe, c'est que les deux puits, il y a un puits d'injection.
Ouais.
On injecte de l'eau sous pression et ça fait ressortir l'eau bitumée, le mélange de bitume et d'eau par l'eau de puits d'extraction. Et c'est entre ces deux puits tout au fond, à 1500 mètres, on a donc de l'eau qui, enfin une pression qui fait remonter quoi.
Ouais.
Et petit à petit, au bout de quelques années, sur cette zone-là entre les deux puits, il y a donc un épuisement de de la densité du pétrole.
C'est ça.
Ouais. Donc ils sont obligés de recreuser d'autres
c'est ça,
puits
exactement,
un
ouais.
peu plus loin.
Et d'étendre au fur et à mesure.
Alors des choses, c'est qu'en fait, ils sont forcément obligés de pour pouvoir exploiter de refaire des puits un peu plus.
C'est ça. Donc en fait, c'est vraiment l'exploitation pétrolière. Il faut comprendre que c'est un peu une extension sans fin où l'extension des puits permet d'exploiter toujours un peu plus la ressource qui sinon se tarit. Quoi. Enfin, on n'a plus la pression
voilà,
nécessaire pour les obtenir. Quoi.
Ouais. Voilà. Et donc la particularité des mobilisations, c'est bon, d'abord ces pétitions, ces mobilisations locales, des élus. Et puis on a aussi donc, la mairie de Paris et Haute-Paris qui sont vent debout contre le projet puisque donc, ils défendent leur matière première,
ouais,
l'eau pure en plus qui arrive ici. Et donc, c'est surtout Haute-Paris, en fait, qui mène le combat juridique.
Mmh.
Donc, Haute-Paris est une régie publique hein, qui a été instaurée en 2005. Paris, la ville de Paris a repris, en fait, le marché de l'eau à Veolia. Et cette régie publique a donc une stratégie environnementale très forte, par exemple... le captage d'eau, s'il est pur, c'est aussi parce qu'il y a une stratégie de Paris de soutenir les agriculteurs bio dans toute la vallée du Lunin qui approvisionne la nappe phréatique. Et donc, Haute-Paris a porté plainte contre les nouveaux forages et contre le décret du préfet. Et la ville de Paris, ainsi qu'un certain nombre de communes environnantes et les associations environnementales, se sont déclarés partie prenante, partie intervenante pardon, sur le dossier juridique d'Haute-Paris.
Haute-Paris
qui porte le combat.
Et là, la coalition d'associations dont FNE Seine-et-Marne fait partie est en soutien de cette action portée par Haute-Paris.
Haute-Paris.
C'est ça ouais, très bien. Ouais. Et donc là, pour vous, les perspectives, c'est justement cette... Donc vous avez un peu des dates, des échéances pour ce que veut dire porter plainte au TA. C'est quoi les échéances?
Donc on avait porté plainte une première fois en référé. Le référé a dit qu'il n'y avait pas urgence puisque le tribunal ne devait juger qu'au premier semestre 2025.
Mmh. Ah oui,
et
non,
en fait, les mémoires qu'on a déposées il y a 15 jours comme partie intervenante, donc aussi bien du côté des communes dont Ville de Paris que des associations environnementales, a conduit à ce que le jugement sera certainement reporté au deuxième semestre 2025.
Et les puits sont prévus pour quand?
Après ce jugement.
C'est ça, oui.
Ils
ont pour l'instant pas dit qu'ils passeraient en force et qu'une fois les puits creusés, ils pourraient toujours être condamnés. Quoi. C'est qu'ils ils disent qu'ils vont tenir l'attente de jugement, c'est ça?
Voilà. Sinon, avec Haute-Paris, il y aura à nouveau un référé.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà, mais la mobilisation reste, et donc il y a un travail, on a fait par exemple une assemblée il y a 15 jours pour expliquer comment fonctionnait la nappe phréatique et la couche karstique, et toute cette histoire de l'eau, parce que finalement elle tombe pas du ciel, l'eau, contrairement à elle sort du sol là, chez nous. Et le 14 novembre, à l'Académie de l'eau, donc au siège d'Haute-Paris, il y a une grande assemblée avec un certain nombre de tables rondes toujours autour de ce projet hein, qui essaye d'expliquer bien les différents niveaux en fait de notre bataille, c'est-à-dire aussi bien l'environnement local, les enjeux écologiques de société et puis la défense de la qualité de l'eau pour les 180 000 Parisiens.
Il y a un dernier argument qui est utilisé par l'exploitation pétrolière, qui évidemment se veut écologique, sinon elle n'a pas lieu, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait sur le tarissement un peu nécessaire d'une exploitation pétrolière avec le temps, c'est qu'ils disent qu'ils vont aussi en faire un puits de carbone.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous démentir ça? Parce que je sens que c'est un argument qui va revenir. Du coup, c'est en fait...
Non, ce n'est pas vraiment un argument. Il y a eu un rideau de fumée que le Bridgeoy a publié en fait, pour faire croire qu'il y avait des compensations écologiques par rapport aux effets de l'exploitation. Et donc, c'était aussi bien l'utilisation de l'eau chaude et sort à 60 degrés
pour chauffer
la ville de Nemours. Mais la ville, elle était à 7 ou 8 km, donc c'est un non-sens. Ou bien cette captation de CO2, mais il n'y a pas de CO2 produit dans le coin, donc c'est encore une vue de l'esprit.
Ouais.
Et puis, de toute façon, c'est même pas laissé au niveau... français.
Ouais,
donc
ouais.
Voilà,
c'était une tentative un peu avortée, quoi.
Pour
ouais,
faire
ouais.
croire que okay, c'est
ouais.
quelque chose.
Ouais. Ok, très bien. Eh ben, on vous souhaite bon courage dans cette lutte. Et puis, on
Merci.
Va se
bah, donc,
tenir
on
au courant.
On continuera, en tout cas, la population, les élus, les associations, et puis Haute-Paris en tant qu'institution.
Ouais.
Donc, voilà, tout ce monde-là est toujours mobilisé.
Très bien, on va se tenir au courant.
Merci, au revoir.
Au revoir.
They can't breathe when I come through, squeeze at these dumb mutes. They just like to speak fake beef to get some views. Then talk numbers that they pay for. That's all weak, I'm the one who does shows from here to Tenerife. No fear, I'll be dead in these knees. Stop letting them speak, I'm on next. I'm not letting them breathe, it's not getting to me. But fuck giving them exposure. They talk money, but they're living on their best friend's sofa. I'm sitting in the ends with Nova, flinging it over and over. The life that I'm living ain't kosher. No time to be billing, it's sober. I've got money to make and tracks to lace. And these fakes be killing this culture. I can't sit back and watch no more. The scene's got poor, so it's time to rebuild. No one wants to work no more, they wanna chat some more. But I wanna see skills, so show me what you're made of. Send these shots, but your aim's off. I back beef, you got fake ops. Tryna stunt on the gram, try stunt in the ends. And I bet that your chain's gone. We ain't the same, don't nah. We ain't the same. I can't keep telling them, only on space is irrelevant. I'm the general, and they couldn't stand me if I speak to my regiment. No bandwidth to reach my intelligence. It's peak, and I'm getting them out of here. I've been around for years, and still the best, it's evident. So stop saying my name for the light. Stay in your lane, it's alright. Don't pretend to be satin, you're not. Cause you'll be running from Frost and the rest of the guys. If I call on the squad, I got it locked in the ends like that. My guys will Len clicks down if I say he's a op. Man will spin the block and pull up like. Now you're struggling to breath. Put you to sleep, that's a cousin of death. Keep saying you're the guy, nah, that's a lie. Your life is nothing but a mess, you're nothing to respect. But you can PM me, you pop bottles of E&J and think you're the guy, you're not seeing straight. Fix your eyes, I'm out here being great all the time. With FA, we're the best mate. Everything we drop pops. While you're struggling to get plays, you know them way. So compete with who? It's time to teach these youths. Cause they like to chat with no reason to. Don't hate, I'm speaking true.
C'était Lady Shocker sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM. Vous êtes toujours sur Zoom Écologie et on continue notre émission avec Manon qui est chargée de campagne auprès des Amis de la Terre sur les questions agricoles pour nous parler donc de d'engrais. Et on va donc on connaît bien on va les rappeler évidemment hein, mais les enjeux des engrais du point de vue écologique de c'est quoi le répandage et ça ok mais on va en dire deux mots et ensuite on va s'intéresser plus précisément à leur cycle de production distribution et stockage et des problèmes que ça pose
ouais.
donc d'accord les engrais donc première chose quand on les épand c'est pas du tout neutre ça fait pas juste pousser plus vite les plantes.
Non, ce serait trop beau. Ce serait simple, on n'aurait aucun problème en agriculture si c'était aussi simple. Il faut savoir qu'à peu près la moitié, ce qui est intéressant dans les engrais chimiques pour l'agriculture, c'est l'azote que ça apporte très vite aux plantes. Là où, quand ça se fait naturellement, en fait, les plantes font elles-mêmes la synthèse de l'azote de l'air. Et là, en fait, c'est les engrais chimiques qui vont apporter de l'azote. Donc, on n'a pas trop à s'embêter avec l'agronomie, en fait. Et c'est les engrais qui vont faire ce job-là, donc de manière chimique, sauf qu'effectivement, les plantes, on met tellement d'engrais que les plantes n'absorbent que la moitié de cet azote. Mmh. Et donc, tout le reste part dans différents niveaux, que ce soit dans les cours d'eau, justement, où là, il y aura des surcharges en nitrate. Et le problème des algues vertes...
c'est celui-là en bout de chaîne, quoi.
Ouais, c'est en grande partie un problème d'engrais chimiques. Ça va être aussi des émissions de particules fines, beaucoup qui s'évaporent dans l'air, et notamment les émissions d'ammoniac. C'est pour ça que pendant le confinement, par exemple, à Paris, on avait quand même des pics de pollution aux particules fines. C'est parce que c'était les périodes d'épandage d'engrais.
Avec des endroits même où ils sont censés fermer les écoles parce que notamment les pays viticoles on mettra de l'engrais et tant pis si l'école elle est à 5 mètres de l'épandage quoi. Enfin,
alors ça pour à mon sens c'est plus pesticides.
C'est plus des pesticides ça.
Ouais, okay, effectivement. Okay. Donc, okay. Mais là où c'est très intéressant, c'est que les engrais, c'est principalement utilisé dans les grandes cultures de céréales.
Oui.
Donc en Île-de-France, on est quand même assez concerné. Mais après, ce qui est très intéressant aussi sur le lien avec les pesticides, c'est que quand on utilise beaucoup d'engrais, c'est pas anodin non plus pour la plante qui se retrouve, sa composition chimique est modifiée parce qu'elle est surchargée en azote, elle devient plus appétissante pour les ravageurs. Et derrière, on utilise des pesticides. Et une grande partie du surusage d'engrais chimiques, c'est parce qu'on sait que derrière les plantes, il va y avoir des champignons et tout, mais on va traiter derrière. Et du coup, c'est ce cycle infernal de l'agrochimie qui est effectivement ultra polluante. Et encore tout ça, c'est sans parler même de l'impact climatique après l'épandage, parce que quand on épand, les engrais chimiques, ça émet massivement d'un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, dont on parle de plus en plus parce qu'on se rend compte que les émissions ne baissent pas et qu'on n'arrive pas à les faire baisser. Et c'est un gaz qui a un pouvoir réchauffant 300 fois plus fort que le CO2. Ouais.
Et avec un durée de vie en plus qui est de plusieurs centaines d'années. Donc on est parti pour un bout de temps avec cela.
Même si on arrête demain, on reste très très longtemps dans l'héritage de ces épandages d'engrais.
C'est ça. Et sachant que de la même manière pour le sol, une fois qu'on a mis de l'engrais dans un sol, qu'il est extrêmement riche en nitrates, et que donc sa composition a été changée, on met un certain temps avant de retrouver un sol, on va dire, un peu originel. Quoi.
Enfin, c'est pour ça qu'en bio, il y a 3 ans avant de considérer, avant de pouvoir avoir le label bio, c'est le temps de reconstruire la terre, en fait, la terre qui a perdu sa matière organique, parce que ça fait ça, l'utilisation d'engrais. C'est pas que de la faute des engrais, c'est parce qu'on utilise des engrais, donc on se met en monoculture, on n'a plus besoin de réfléchir à agronomie, amendement du sol, justement. Et en fait, on détruit la matière organique du sol, et ça prend du temps à se reconstruire.
Et donc, on sait désormais que, en fait, quand on parle engrais, mais aussi pesticides, mais bon, là, en l'occurrence, engrais, on parle aussi d'un modèle agricole donné, qui est un modèle agricole productiviste, monoculture, de grande exploitation, et que ceci n'est pas du tout neutre politiquement. Mais, en fait, on va s'apercevoir que parler engrais, c'est aussi parler d'un gros système de production qui n'est pas du tout négligeable, dont on entend de temps en temps parler à l'occasion d'une catastrophe, mais qui sinon, on entend beaucoup moins parler, par exemple, que les industries chimiques en général, pétrolières en particulier, et que, en fait, c'est très important. Alors d'abord, peut-être on peut rappeler les engrais, on les découvre, je ne vais pas dire fortuitement, mais quasiment, et qu'en fait, à la base, c'est un produit qui n'est pas censé servir d'engrais, quoi.
Oui, c'est ça. La synthèse, la base des engrais chimiques, c'est l'ammoniac. Donc, c'est la synthèse de l'hydrogène et de l'azote. Et donc, la première synthèse, c'était au début du 19e siècle, 20e siècle, pardon, si je ne dis pas de bêtises, j'ai plus la date exacte en tête, mais en tout cas, avant les secondes guerres mondiales. Et en fait, on s'est avant tout rendu compte du pouvoir explosif du nitrate d'ammonium qui était produit à partir de ça. Et à la base, oui, c'était servi, on s'en est servi massivement, on a commencé à massivement s'en servir. Justement dans les guerres mondiales pour faire des explosifs, et à la base c'était vraiment une industrie de guerre, et il a fallu un petit temps avant que ça devienne une industrie agricole
dans le recyclage de toute l'industrie de guerre qui sinon s'effondrait si on la recyclait pas en civil
Exactement.
Donc, et là on a parlé à l'affaire du coup avec les pesticides, puisqu'on retrouve notamment les pesticides, plutôt les herbicides, sur le défoliant qui en fait est lui aussi un produit de guerre.
Exactement, oui, ça, toute l'agrochimie a ce passé, ce lien avec la guerre, et régulièrement sert à nouveau à faire la guerre, en fait. Aujourd'hui, on a encore du nitrate d'ammonium qui sert à faire des explosifs.
Et c'est les mêmes filières de production, ou ils ont quand même réussi à découpler ça?
Non, c'est pas les mêmes processus. Ils se rencontrent joyeusement, mais...
Et donc, ce nitrate d'ammonium, il doit être produit. Alors, c'est vrai qu'on imagine qu'il apparaît un peu comme à magie dans la cuve de l'agriculteur. Mais en fait, alors qui et comment produit-on ces engrais d'ammonium?
Alors, à la base, la grande majorité des engrais qu'on utilise dans le monde, c'est ce qu'on appelle des engrais azotés de synthèse, mais je vais dire engrais chimiques pour faire court. C'est fait à partir de gaz fossiles, dans la très grande majorité. Parfois, encore en Chine, un peu de charbon, enfin, en tout cas, jamais d'énergie propre. Et on utilise justement ce gaz pour fabriquer l'hydrogène qui va servir ensuite à faire l'ammoniac. Si vous arrivez à suivre, c'est pas forcément évident. Et donc ce gaz, c'est beaucoup, on l'achète aux pays qui ont du gaz, donc beaucoup la Russie.
Donc en fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'un engrais est un produit de l'industrie pétrochimique.
Exactement. Et notre agriculture, qui dépend de ces produits de l'industrie pétrochimique, notre agriculture est fondamentalement fossile. C'est-à-dire que dès qu'on a des crises dans l'approvisionnement en gaz, on a des crises alimentaires. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu avec la guerre en Ukraine, en fait. À partir du moment où on a voulu couper l'approvisionnement en gaz de la Russie, on a eu des problèmes, de l'inflation sur les engrais, donc sur les produits alimentaires.
Parce que nous, on nous a tout de suite, effectivement, rapidement parlé du chauffage, de l'énergie pour faire tourner les usines électriques au gaz. Mais en fait, ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi un enjeu sur la production alimentaire,
qui est énorme. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça aujourd'hui que le gouvernement français commence un peu à se préoccuper de ce sujet. c'est pas pour l'impact environnemental, climatique, on s'en doute, mais c'est justement pour cette question de ce qu'ils appellent la souveraineté alimentaire, en tout cas de sécurité alimentaire, et de peur que du jour au lendemain, en cas de crise, crise énergétique ou géopolitique, parce qu'on importe justement de pays, enfin de Poutine et Trump, c'est de là-bas que ça vient, on n'arrive plus à se... En tout cas, que la nourriture devienne tout à coup très chère. Et c'est vraiment un risque énorme. C'est là qu'on recouple aussi avec la guerre. C'est qu'on a coupé l'approvisionnement en gaz de la Russie, mais on a importé davantage d'engrais. Donc en fait, on importe du gaz sous une autre forme. On finance et Poutine, en sachant qu'on est complètement dépendant, a fait plus 700% le prix de leurs engrais. C'est comme ça qu'ils financent la guerre. Et aujourd'hui, Trump qui finance massivement des nouveaux gaz, des nouveaux forages, le gaz de schiste, etc. Nous, avec notre addiction aux engrais, parce que la France est le premier consommateur en Europe, on finance aussi largement la politique de Trump.
Et donc après, ces engrais qui sont produits dans des complexes, des très gros complexes chimiques liés à la pétrochimie. Alors, plutôt pas en France, ça. Enfin, tu dis que c'est massivement importé, c'est ça le...
Ouais, c'est massivement importé. On importe en fait en France 80% des engrais qu'on consomme, sous forme déjà manufacturée. Mais de toute façon, les 20% restants qu'on fabrique sur le sol, on a aussi importé les matières premières parce qu'on n'a pas de gaz en France. Dans tous les cas, on est dépendant un peu, quel que soit le niveau de production en France. On importe beaucoup de Russie, des États-Unis.
C'est quoi c'est des bateaux, c'est quoi? C'est un peu comme un pétrolier, sauf que du pétrole dedans, il y a de l'engrais. C'est la forme que ça prend ou c'est de la poudre? Comment on sait quoi le format? Et du coup, c'est quoi? C'est des pipelines, c'est un bâton? On ne s'imagine même pas trop comment on transfère comme ça l'immense, enfin, la quantité monstrueuse d'engrais qui est finalement déversée sur les champs.
Ils sont manufacturés. En fait, ça se présente sous forme, c'est dans ce qu'ils appellent des big bags, c'est des gros sacs blancs. Et ils sont soit directement manufacturés à l'étranger, soit on importe les matières premières sous forme liquide, de gaz liquéfié. Effectivement, on a ces gros bateaux. Principalement, c'est ça. La forme la plus courante, c'est des gros bateaux chargés de big bags qui sont, soit en vrac, soit déjà en big bag, qui sont ensuite qui arrivent dans les ports français et qui sont stockés, qui sont achetés par les coopératives, qui sont ensuite vendus aux agriculteurs. C'est principalement comme ça.
Et ce qui veut dire qu'il va nous falloir du stockage.
Oui, du stockage. Et peut-être effectivement, pour développer un peu plus sur la partie transport, qui est déjà aussi un énorme problème en elle-même, c'est que c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement explosif.
Le Liban s'en est rendu compte il y a quelques années.
Exactement, donc c'est Beyrouth, ce qui a explosé sur le port de Beyrouth, c'était du nitrate d'ammonium dont personne ne s'occupait. Il y a eu un coup de chaud et ça c'est hyper explosif. Il y a régulièrement, même chez les agriculteurs qui stockent, il y a régulièrement des incendies, c'est hyper dangereux. On est un des seuls pays dans l'Union européenne qui accepte encore de stocker dans des larges volumes des engrais des ammonitrates haut dosage qui sont hautement explosifs. Dans plein de pays, c'est interdit. Même le transport, effectivement, c'est vraiment considéré comme des matières dangereuses. Et récemment, là, encore le mois dernier, on avait un bateau qui s'appelle le MV Ruby qui s'est retrouvé endommagé en pleine mer, mais chargé d'ammonitrate, et aucun port européen ne voulait l'accueillir parce qu'ils avaient trop peur.
Sachant qu'il ne faut plutôt pas non plus qu'il échoue.
On est obligé de l'accueillir. Sinon, c'est après pollution massive de l'eau.
À un moment, Brest était pressenti pour finalement l'accueillir, et toi, tu dis c'est parti en Angleterre.
C'est parti en Angleterre. J'avoue que je n'ai pas les tenants et les aboutissants de pourquoi. Je sais que l'Angleterre, en ce moment, commence à mener une politique très amicale envers les engrais chimiques. Ils accueillent les nouvelles usines de Yara, la multinationale, pour approvisionner notamment la France.
Ça finit chez eux.
Mais
ce qui fait que ce n'est pas forcément souvent qu'il y a des problèmes, mais ces problèmes-là, vu que c'est soit des immenses hangars remplis de ça, soit des bateaux entiers... En fait, si ça explose, c'est vraiment désastreux à ce moment-là. Et le port de Beyrouth a été soufflé,
Le port de Beyrouth et AZF, il y a 20 ans, c'était aussi ça. En termes de probabilité, ce n'est pas souvent que ça arrive. Mais quand ça arrive...
C'est un quartier qui est
rasé. Par exemple, sur la zone de Saint-Nazaire, que moi, je suis particulièrement...
On va en parler. Donc, cette zone de Saint-Nazaire, du coup, c'est à côté de Saint-Nazaire. Alors, c'est l'usine qu'on va appeler usine Yara, et qui est implantée depuis pas mal de temps,
Oui, ça, enfin, ils ont racheté, c'était déjà une usine d'engrais, mais qu'ils ont racheté à une autre compagnie dans les années 60 de mémoire. Et du coup, il y a cette usine de production d'engrais, donc ils sont toujours sur les ports, hein, parce qu'il faut pouvoir réceptionner justement et ensuite diffuser dans le pays. En plus, c'est une usine Seveso, seuil haut, qui est particulièrement à risque industriel, entourée d'autres usines Seveso qui ont un potentiel explosif. Enfin, il y a Total, il y a Cargill, il y a Invivo, il y a toute l'agro-industrie et la pétrochimie. Et là, effectivement, sur le risque explosif, par exemple, on sait que quand ça pète, après, c'est vraiment l'effet domino, quoi, c'est en cascade. Et il y a un expert qui s'appelle Paul Poulain des risques industriels qui avait estimé que tout serait rasé sur un rayon de 5 km autour de l'usine de Yara s'il y avait une explosion.
Si elle est explosée, ouais. Donc, en fait, c'est des risques qu'on n'a pas le droit de prendre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un peu un truc comme ça, quoi. Enfin,
Je suis retombée récemment sur des papiers qui parlaient des premières implantations d'usines d'engrais en France. Et en fait, à l'époque, on estimait qu'il ne devait pas y avoir de gens autour de ces usines.
C'est ça, voilà. Ouais. Alors que Saint-Nazaire est
quand même. Sauf qu'en fait, il y a eu les travailleurs des usines. Et les travailleurs, on a un peu oublié ce risque qui était très présent au tout début. Les gens ne voulaient pas de ces usines, il ne fallait pas habiter à côté. Puis au fur et à mesure, il n'y a pas eu d'accident tout de suite. Donc voilà, exactement.
Si, mais du coup, donc cette usine qu'elle a à Saint-Nazaire depuis longtemps, donc qui est initialement une usine de production, là, c'est quoi? C'est le problème, c'est le stockage, c'est autre chose?
C'est une usine de production. Faut savoir que Yara, donc non content de produire des produits hyper dangereux et mauvais pour la santé et l'environnement, c'est aussi n'a pas respecté la loi en fait en matière de sécurité et de santé. Donc ça faisait des dizaines d'années qu'ils émettaient des poussières, de l'azote, du phosphore dans des beaucoup trop grosses proportions par rapport à ce qu'ils étaient autorisés à faire. Qu'il y avait plein d'inspections qui montraient qu'il y avait des failles de la part de Yara en termes de sécurité et qu'en fait il fallait juste qu'ils se mettent aux normes sur un certain nombre de choses pour pas polluer. Et ils ont jamais fait les mises aux normes. Et on a fini par comprendre que c'était parce qu'ils comptaient licencier, en fait, fermer cette usine de production pour le transformer en zone de stockage pour les engrais chimiques. Donc vraiment, c'est quand même... Enfin, moi, je suis toujours choquée de voir que non seulement ils ne respectent pas leurs contraintes, alors qu'ils font des chiffres d'affaires de plusieurs milliards d'euros et que se mettre aux normes, ça ne représenterait pas un si gros investissement pour eux, que l'État se contente ensuite de mettre des amendes de 1 000, 2 000 euros, ce qui ne représente absolument rien pour eux.
C'est pour eux, c'est 3 centimes.
Enfin, exactement. Alors qu'il y avait d'autres solutions, par exemple des mises en demeure de l'usine qui auraient permis aux salariés, en plus, de continuer à toucher leur salaire juste le temps que l'usine se... Voilà, d'empêcher Yara de produire, en fait, pour le temps qu'ils se mettent aux normes. Il y avait plein de solutions. Donc, il y a vraiment un abandon des populations riveraines de ces usines d'engrais. Et moi, je le vois parce que j'ai parlé à d'autres riverains d'usines, notamment, par exemple, en Palestine. Israël se sert aussi, et là encore un lien avec la guerre, Israël se sert des usines d'engrais comme arme de guerre pour rendre la Palestine invivable. Ils se servent des pollutions industrielles pour polluer l'État palestinien, quoi.
Oui, d'accord, ouais. Et ça passe notamment par ces sites-là, tu dis, d'engrais.
Ouais, exactement. En Palestine, nous, on est en contact avec un agriculteur palestinien très, très engagé. En fait, au départ, il y avait une usine de Géchouri, je crois, cette multinationale israélienne, et qui, à la base, était en Israël. Les Israéliens ont vu leur taux de cancer exploser, comme c'est le cas d'ailleurs là à Saint-Nazaire. On portait plainte, on fait un recours juridique, on a obtenu gain de cause, l'usine a fermé, mais du coup, l'usine s'est réinstallée à la frontière, à un endroit stratégique où les vents soufflent d'une telle manière qu'ils savent qui ça va aller polluer. Ils savent quel cours d'eau ça va polluer, donc celle des Palestiniens, et où vont aller les poussières, toutes les émissions. Et quand 7 jours par an, les vents changent de sens et vont vers Israël, l'usine s'arrête.
Donc là, on a vraiment eu l'exemple type du racisme environnemental tel qu'on le développe de temps en temps dans une écologie, mais qui est que vraiment la question écologique de la pollution est aussi une question raciale, au sens où c'est l'occasion de réactiver les différences raciales qui passent par l'exposition ou non à des polluants. Et en l'occurrence, tu dis, c'est une vraie politique, quoi.
Exactement. Là, c'est utilisé en conscience. Ouais. Mais après, moi, je considère qu'en France... où il ne s'agit pas d'une arme de guerre, en tout cas, ce n'est pas considéré comme tel, il y a quand même ces populations qui sont sacrifiées, qui ne sont pas protégées par l'État.
Là, tu l'as évoqué, mais c'est qu'effectivement, dans tous ces bassins industriels, et donc là, en l'occurrence, à Saint-Nazaire, le taux de cancer et de maladies liées aux pollutions en général est effectivement beaucoup plus haut qu'ailleurs. Ouais. Et là, toi, tu dis, on peut l'imputer en partie à la question des engrais
complètement.
Ou c'est dilué, c'est impossible de savoir
Alors, Un peu des deux. Y a quand même des émissions où on sait que là, ça ne vient pas des autres usines à côté. Les émissions d'ammoniac, les rejets d'azote dans la Loire, toutes ces choses-là. Après, bien sûr, il y a plus 42% de cancer localement,
c'est énorme,
ce qui est énorme. Ouais. C'est vraiment considéré par l'agence de santé comme un risque. Enfin, c'est pas un hasard, quoi.
Ouais,
et ça, c'est oui, c'est en grande partie. On sait que ça vient notamment des engrais, quoi.
Ouais. Ok. Et donc cette usine là qui donc tu dis évidemment donc quand on parle aussi de donc ces productions c'est que c'est des multinationales qui produisent ça comme ils produisent pour autre chose et pour lesquelles la main d'œuvre est évidemment une marchandise comme une autre et à ce moment là ils disent bah on ferme et on fait autre chose quoi et donc cette autre chose ce serait du stockage ce qui n'enlève rien à la dangerosité du site du coup
non c'est ça le risque explosif là on a enfin là une des premières choses pour lesquelles on se bat, parce que pour aussi commencer une lutte, il faut déjà qu'on ait un minimum d'informations, parce que les informations, on ne les a pas. Donc on demande à ce que toute la transparence soit faite sur ce que va devenir le site, parce que pour l'instant, on sait plus ou moins, mais ça n'a jamais été vraiment confirmé que ça allait devenir un site de stockage. Mais on veut savoir voilà, quels engrais il y aura. Est-ce que c'est les engrais les plus explosifs ? Il y a de fortes chances, parce qu'en France, c'est ce qu'on consomme. Dans quelle proportion ? Pour l'instant, les premiers chiffres qu'on a entendus, mais c'est vraiment des rumeurs, c'est que ce serait à peu près le double de ce qui a explosé à Beyrouth. Est-ce que les normes de sécurité vont être enfin voilà, quelles normes de sécurité il y aura, ça pose toutes ces questions. Et il se passe la même chose en Belgique, ils sont en train de fermer Yara en fait, à la même stratégie, est en train de désinvestir massivement l'Europe et de remplacer les usines de production par des usines de stockage, parce qu'en fait justement c'est massivement financé par Trump, parce que fiscalement c'est plus intéressant de le faire dans d'autres pays et ensuite d'importer en France.
Oui, parce qu'en fait ils sont produits là parce que c'est pratique, mais ils pourraient très bien être produits ailleurs, déplacés, re-importés, enfin c'est-à-dire que ça circule tout ça quoi. Enfin,
Oui, et puis Ara va toujours chercher là où c'est le plus profitable et puis ça. Je pense que c'est aussi une industrie qui a de moins en moins la cote en Europe justement parce qu'on est en train de se rendre compte de ce que c'est vraiment cette industrie. Ils savent qu'il y a ils anticipent des législations qui vont arriver, qui vont être contraignantes pour eux.
Ouais.
Donc là, ils sont en train de rapatrier tous leurs petits dans des pays fascistes.
C'était Special Interest avec Nothing Grows Here, dont vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel sur le 106.3 FM, c'est Zoom Écologie. Et on parle avec Manon de la campagne, enfin de, qui est chargée de campagne auprès des Amis de la Terre sur les questions agricoles. Et on parle donc des engrais. Et on va finir avec une petite perspective un peu politique, sociale, écologique de OK, on n'est pas d'accord avec ça et on en sort. Ça veut dire quoi? Alors, donc, peut-être la première question qui se pose, c'est si on dit que notre agriculture est gavée et dépend et repose en partie, mais quand même énormément, sur les engrais, c'est quoi l'agriculture sans engrais? En France, est-ce que c'est ne serait-ce que imaginable actuellement?
Bah, l'agriculture biologique déjà. Très concrètement, l'agriculture biologique, le cahier des charges impose zéro engrais chimique. Donc, de toute façon, il y a plein d'autres façons d'apporter des nutriments aux plantes en nourrissant justement le sol et pas la plante avec des produits chimiques. Donc, ça existe très concrètement. Après, il y a plusieurs scénarios qui ont été faits sur justement est-ce que c'est possible de se passer d'engrais chimiques. Alors il y a plein de scénarios qui montrent que oui, on peut s'en passer complètement à condition de bouger plein de paramètres. Donc c'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut une vraie planification écologique.
On fait pas la même agriculture sans engrais. Ce serait pas la même quoi.
Enfin, quand les engrais sont arrivés, pour moi c'est un peu le mot de tous nos problèmes en agriculture presque, c'est que c'est parce qu'on a eu les engrais qu'on a pu séparer l'élevage des cultures végétales.
Là on parle des engrais chimiques,
nutriments. Engrais chimiques, enfin, oui, bien sûr, oui, pas le compost. C'est comme ça qu'on a pu avoir l'élevage industriel, parce que 80% des engrais qu'on utilise, c'est pour faire de l'alimentation pour les animaux. Et du coup, c'est vraiment ce produit, c'est la base du système agricole industriel qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper important à savoir. Et du coup, en fait, quelque part, on doit... Alors, faire machine arrière, pas dans le sens où on retourne à la bougie. On a appris plein de choses, notamment dans l'agriculture bio, on a appris plein de nouvelles techniques, etc. Mais en tout cas, il faut revenir à des pratiques agroécologiques. Et donc, ça veut dire, en fait, retrouver un cycle de l'azote qu'on a complètement brisé en introduisant les engrais chimiques. Ça veut dire utiliser, on doit recoupler les zones d'élevage avec le maraîchage, avec les céréales, utiliser, en fait, les déjections des animaux pour fertiliser les sols. Ça veut dire qu'on aussi forcément qu'on va produire moins en volume. Donc, mais comme on gaspille énormément d'alimentation, en fait, c'est aussi réduire au maximum le gaspillage alimentaire. On perd plein de sources d'azote qui deviennent des déchets actuellement dans nos systèmes, et notamment les excréments humains, les urines et les déjections, qui sont hyper fertilisantes et qui finissent au tout à l'égout, qui ensuite sont hyper polluantes à dépolluer, enfin hyper coûteuses en énergie, etc. Ça, pareil, ça doit être considéré comme une ressource et pas devenir un déchet.
Parce que le problème de l'industrie agricole du point de vue de l'élevage, c'est qu'elle produit énormément de déjections, c'est très très polluant. Et la question, c'est ces déjections, est-ce qu'elles sont réintégrables ou pas? Et du coup, si on perd ces déjections hyper volumineuses de l'industrie de la viande, et ben du coup, quelles sont nos sources d'engrais, quoi? Parce que tu dis, dans tous les cas, il va falloir produire moins. C'est comme ça que ça signifie, malgré tout. Enfin, malgré tout, c'est pas forcément très grave, mais enfin, est-ce que ça devient grave ou pas de se dire, en fait, on peut produire moins aussi, on a assez à manger?
Oui, on peut produire moins parce qu'on produit trop, et justement parce qu'une grande partie est gâchée ou mal allouée. Et du coup, si on revoit tout le système, ce qui est une grosse tâche, on peut produire moins. Et l'élevage, il faut distinguer vraiment élevage industriel qui produit justement énormément de lisier dans un même endroit et on ne sait plus quoi en faire, ça devient une pollution. Ouais. Avec l'élevage paysan et des animaux dans les fermes, on en a besoin justement parce que leurs déjections, quand elles ne sont pas en trop gros volume, c'est une vraie richesse et c'est un vrai atout pour nourrir les sols. Ouais. Ça veut dire aussi plus de légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, ça amène de l'azote naturellement au sol, c'est des amendements naturels pour les sols. Et donc voilà,
tout c'est pas mal. Ça renvoie à des choses qu'on avait déjà dit avec notamment l'atelier paysan et comment ça s'appelle, Terre de Liens, qui faisait un peu des projections sur c'est quoi une agriculture bio et disait en termes d'emploi, par contre, ça veut dire qu'on a 10 millions de paysans en France. Parce qu'en fait, si on remplace l'industrialisation mécanique et chimique, il faut du personnel, quoi. Ouais. Donc en fait, ça veut dire aussi transformer un paysage social, enfin massivement, quoi. C'est vraiment des perspectives. Si on se dit on se passe des engrais, on transforme un pays. Enfin, il faut aussi faut le formuler comme ça. C'est pas que c'est impossible, mais c'est des changements qui sont monstrueux, en fait, quoi.
Ah oui, c'est clair qu'on va avoir besoin de main d'œuvre dans les champs. C'est clair qu'on peut pas rester sur les mêmes systèmes. L'argent de la PAC, il peut plus aller aux mêmes endroits parce qu'en fait, Si le prix de toute cette main-d'œuvre se répercute sur le prix de l'alimentation, pas possible. En fait, il faut que maintenant on subventionne cette agriculture et pas l'agriculture industrielle.
Oui, parce qu'on est d'accord que cette agriculture elle est rentable parce qu'elle est subventionnée. C'est-à-dire que les engrais sont en fait massivement subventionnés au sens où l'argent qui permet de les acheter, c'est l'argent de la subvention de l'État à la production agricole. Enfin.
Oui.
Elle n'est pas rentable en elle-même, cette agriculture, en vérité.
Ah non, elle est extrêmement...
Non, il faut le dire, parce que sinon,
l'énergie.
Il y a toujours...
Ouais, effectivement. Ouais. Parce que ça a l'air d'être de la nourriture pas chère, c'est juste parce que c'est complètement... C'est sous perfusion d'argent public. Ouais. Alors que l'agriculture qui nous semble chère, c'est... tout ça, c'est des choix politiques, en fait, c'est effectivement.
Ouais. Ok. Mm. Et alors, ça pose aussi peut-être la... Enfin, même pas peut-être, mais aussi actuellement la question des personnes qui actuellement produisent des engrais, et notamment dans les INERA, où il y a un plan de licenciement massif qui, dans le contexte actuel, se rajoute à d'autres plans de licenciement dans le coin. Et du coup, voilà, c'est quoi qu'on offre aussi comme perspective à ces personnes qui actuellement travaillent, peut-être malgré elles, à la production de ces engrais.
De toute façon, elles sont en train de se faire virer par Yara, donc elles...
oui, effectivement, ils ont
travaillé malgré eux. D'ailleurs, ils ont fait des déclarations récemment dans la presse en disant on a fait des sacrifices sur notre santé, sur l'environnement, sur notre sécurité en pensant sauver nos emplois. Ouais. Ils n'ont même pas sauvé leurs emplois à la fin. Ouais. Donc, ils se sont vraiment fait complètement bananer. Et nous, ce qu'on dit, c'est que effectivement, là, ce que fait Yara, c'est une délocalisation pure et simple. Ouais. Ils font passer ça sous couvert de contraintes économiques ou de transition écologique. Ils arrivent même à tordre le truc pour faire croire que c'est pour la transition écologique. En vrai, c'est une délocalisation comme on a connu, bête et méchante. Nous, ce qu'on dit, c'est que de toute façon, la France est extrêmement dépendante aux engrais chimiques. On en consomme 2 millions de tonnes par an. On est le premier consommateur en Europe. C'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir s'en passer. Donc, autant garder les quelques capacités de production qu'on a en France pour nous, il faut les garder. Par contre, il faut
pas... On a souvent que si on a besoin, autant que ce soit fait en France et pas l'exporter justement dans les pays pauvres qui auraient tous les risques.
Oui. Au lieu de, parce que là, Yara délocalise concrètement, ils vont faire une usine en Angleterre, ils vont polluer les Anglais. C'est nous, on veut pas. Voilà. Mais ils peuvent produire en polluant déjà beaucoup moins. Et ensuite, il faut surtout que la France se dote d'un plan de sortie des engrais. Justement, quand on dit cette addiction nous met vraiment à risque notre système alimentaire. On sait que, en fait, on va se retrouver, soit on planifie maintenant, soit on se retrouve au pied du mur dans quelques années, même peut-être demain s'il y a encore une crise énergétique ou économique. Et ça, pour nous, ça veut dire que l'industrie, elle doit être sauvegardée. Et ensuite, il doit y avoir une concertation, et notamment qui implique les travailleurs de ces usines et les riverains d'usines sur comment on planifie la sortie, comment cette production, au début, pendant X années, on va produire tant, dans quelles conditions, comment on prévoit une décrue de la production, tous les paramètres qu'on fait bouger à côté.
Donc vraiment l'inverse d'un plan de licenciement abrupt.
On doit garder les capacités de production d'engrais chimiques en France, encore aujourd'hui, mais par contre...
Avec une perspective de sortie.
Voilà, avec un vrai plan derrière, par contre. Il ne faut pas que ce soit juste on maintient l'appareil productif sans se poser de questions.
Très bien. Eh ben, l'émission touche à sa fin. On remercie bien nos deux invités de nous avoir parlé de ces deux actualités concernant donc l'exploitation pétrolière et la question des engrais. Et on va se tenir pareil au courant. De toute façon, c'est des choses qu'on suit à long terme. Ça, de toute façon, il ne s'agit pas d'avoir des nouvelles demain. Mais en tout cas, on continuera à parler de ces questions-là, ces questions agricoles qui de plus en plus nous taraudent parce qu'on pense qu'on est à la croisée des chemins et que ces chemins sont très très différents et très difficiles à emprunter. Donc voilà, c'est clairement pour nous, c'est maintenant. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. On vous souhaite une bonne soirée sur Fréquence Paris Pluriel et on vous dit à bientôt sur Musique Antilles. Il y a Musique Antilles, donc on vous laisse avec bientôt Musique Antilles. Bonne soirée.